Aujourd'hui, nous recevons donc le professeur Alain Corbin, qui est professeur d'histoire de France au XIXe siècle à l'Université de Paris 1, membre senior de l'Institut universitaire de France, et qui a publié de nombreux ouvrages, dont « Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle », paru chez Aubier en 1978 et en édition abrégée en 1982 dans la collection Champs. Il a aussi publié « Le miasme et la jonquille », « L'odorat et l'imaginaire social » chez Aubier en 1982 et ressorti chez Flammarion en collection Champs en 1986. Il a aussi publié, qui viennent de ressortir, « Les cloches de la terre, paysages sonores et cultures sensibles dans les campagnes du XIXe siècle », publié donc en premier chez Albin Michel en 1994 et qui ressort ces jours-ci. Il a aussi publié « Le monde retrouvé » de Louis-François Pinago sur les traces d'un inconnu, sorti chez Flammarion en 1998, et qui vient de sortir le 13 avril, donc « L'historien du sensible », qui sont des entretiens publiés chez La Découverte, donc récemment. Je vous remercie et je lui laisse la parole.
Merci de cette énumération. Si. Le programme prévoit un exposé intitulé « Histoire et subjectivité individuelle ». Pour ma part, je le modifierai légèrement. Je pense que subjectivité individuelle constitue un pléonasme et que subjectivité suffit. Et d'autre part, que le « dans les » n'est pas très pertinent et donc... Disons que mon exposé tentera de s'intituler « Histoire et subjectivité ». C'est peut-être plus simple. Mais même réduit à cet énoncé, cet objet qui m'a été proposé est extrêmement large, et extrêmement vaste, vous vous en doutez. La manière dont l'individu reçoit, interprète, se rappelle, oublie, ce qui constitue à ses yeux le cours de l'histoire et dont il se trouve modelé par lui, résulte de toute une série de facteurs, résulte de sa trajectoire et de sa position sociale, de son habitus, de ses représentations du monde, de l'autre et de soi, quelle forme ou non système, de ses croyances et de ses convictions, de sa culture sensible, de sa structure affective, et des événements qui ont rythmé son existence. Tout cela fait donc beaucoup, et les 50 minutes imparties imposent donc de délimiter plus étroitement cet objet. Aussi m'en tiendrai-je aujourd'hui à la manière dont la conscience de l'identité, les représentations et la mémoire de soi contribuent à déterminer la façon dont le sujet interprète l'apport extérieur et au retentissement de ce qu'il nous faut résumer par le terme « histoire », ici conçu comme une somme de savoir et d'expérience. Ainsi limité, l'objet oblige à l'examen de plusieurs préalables, étant bien précisé qu'il concerne des individus qui ont vécu au cours du premier 19e siècle, 1815-1860, qui est la période qui me concerne particulièrement. D'où l'organisation de mon propos selon trois interrogations. La première, la biographie d'individus disparus, sans laquelle mon objet s'effondre, est-elle légitime ? Deuxièmement, quelle est alors l'extension sociale d'une représentation de soi distincte de la conscience d'appartenance au groupe qui enserre le sujet? Troisièmement, comment estimer l'influence de l'histoire sur la construction de son identité, donc de l'identité du sujet choisi? Alors, premier objet de réflexion, si cet objet m'a été proposé, l'objet global, c'est que ceux qui ont élaboré ce cycle de conférences ont perçu l'intérêt croissant porté à l'histoire de la singularité. C'est qu'ils savent bien que les historiens refusent désormais de considérer ce que serait un homme moyen dans un groupe à pensée homogène. Le recul des paradigmes holistes se trouve à la racine de la légitimation actuelle de l'histoire du sujet. Celui-ci est-il rétrospectivement accessible et si oui, de quelle manière ? Vous le savez, les attaques contre le genre biographique sont anciennes et nombreuses. La diatribe est pluriséculaire, mais rassurez-vous, je ne vous parlerai ni de Fontenelle, ni de Voltaire, et pour remonter plus haut, ni de Descartes, etc. Donc, la diatribe est pluriséculaire, mais je me limiterai aux 100 dernières années, me référant ici et là à toute une série de travaux de Philippe Le Villain, d'Anne Levallois, de Françoise Gaillard, notamment. Ceux-là même qui étaient les adeptes d'une histoire de la psychologie collective, des mentalités ou des sensibilités, ont mis en cause le genre biographique. Gabriel Monod, je prends cet exemple parce qu'on le présente toujours comme l'historien positiviste par excellence, l'historien qui en 1876 a fondé la revue historique. Gabriel Monod attaque dans cette revue, cette année-là, la biographie. Au moment où Ferdinand Brunetière s'efforce d'en montrer les limites dans le champ de la critique littéraire, prenant donc le contre-pied de toute la tradition issue de Sainte-Beuve. En 1903, François Simian, dans la revue de synthèse, recommande, je le cite, de passer du singulier au phénomène régulier, aux relations stables. En 1922, Lucien Febvre écrit, et la formule est très connue, « Pas l'homme, jamais l'homme, les sociétés humaines, le groupe organisé ». Et ce qui est objet de curiosité pour Lucien Febvre, cet historien des mentalités, lorsqu'il semble contrevenir à sa propre injonction et parler d'un homme, c'est l'homme d'un temps, d'un siècle, un individu abstrait dont l'univers mental, affectif, les comportements sensoriels sont ceux de la culture à laquelle il appartient. Paradoxalement, cette critique de la biographie s'élabore puis se déploie alors que cette même biographie règne presque sans partage dans les manuels d'histoire littéraire. Je fais là allusion à une des conclusions d'un colloque qui s'est tenu à Nîmes l'an dernier, en 1999, par conséquent, est consacré à la biographie. Au milieu du XXe siècle, la dénonciation s'accentue. Jean-Paul Sartre, notamment dans La Nausée, porte à la biographie des coups plus rudes et plus précis. Il se demande que peut-on savoir rétrospectivement d'un homme, à plus forte raison s'il s'agit d'un disparu, compte tenu de sa vérité plurale, des manifestations aléatoires du moi, de l'absence d'unité de l'identité, du manque de fermeté, de consistance, de cohérence de la vie telle qu'elle a été vécue. Qu'est-ce finalement qu'une biographie ? Sinon une manière d'unifier les connaissances du scripteur selon un enchaînement vraisemblable de faits, de conduites, de sentiments et d'émotions, selon une cohérence produite par celui qui opère la totalisation des informations, en bref, le résultat d'une logique imposée par la forme même du récit biographique. Et cette conciliation abusive de couches de signification hétérogènes et irréductibles, pour reprendre une formule de Françoise Gaillard, n'est que forçage du sens. Plutôt, elle n'est que le résultat d'une pré-construction du sens. La tyrannie de la forme conduit à mettre en doute la légitimité même du projet biographique. Mais Jean-Paul Sartre n'est pas le seul. Quelques années plus tard, Roland Barthes renonce pour sa part à la quête d'une vie vécue. Et il se replie selon un processus de désintégration sur quelques éléments simples, les biographèmes, sur quelques détails qui dessinent une existence en morceaux, en éclat, une biographie trouée, parcellisée. Michel Foucault, posant la question quelque temps plus tard « Qu'est-ce qu'un auteur ?», renonce à la reconquête de l'individu, de l'identité d'un individu substantiel, le sujet n'étant pour lui qu'un effet de langage. Plus largement, le structuralisme se fonde sur la proclamation de la mort du sujet, considérant l'homme comme produit des systèmes symboliques constitutifs de la société, ce qui disqualifie la biographie, puisque l'individu possède tout au plus la liberté de prendre ou non conscience de son assujettissement. Mais davantage qu'à ce jeu des disqualifications redoublées, je pourrais en citer d'autres, les historiens ont sans doute été plus sensibles aux mises en garde plus nuancées formulées par Pierre Bourdieu en 1986. Celui-ci, animé du désir de dépasser l'opposition absurde à ses yeux de l'individu et de la société, et conscient du double écueil constitué par le subjectivisme et par le structuralisme, n'en dénonce pas moins à sa façon ce qu'il qualifie d'illusion biographique. C'est le titre de son article paru dans les Actes de la recherche en sciences sociales cette année-là. Bourdieu rejoint ceux qui refusent de considérer la vie, je le cite, comme un tout, un ensemble cohérent et orienté, comme se déroulant selon un ordre chronologique qui serait aussi un ordre logique, comme doté de signification et de direction, alors que le réel est discontinuité, juxtaposition d'éléments disparates. Pour Bourdieu, la vie n'est qu'une trajectoire, et je le cite, unissant une série de positions successivement occupées par un même agent dans un espace lui-même en devenir. Les événements biographiques se dessinent comme autant de placements et de déplacements dans l'espace social. Fin de citation. Ce qui laisse à l'individu la possibilité, nouvelle citation, d'intervenir comme agent efficient dans les différents champs qu'il occupe ou qu'il traverse. Revenant sur le propos dans « Choses dites », Bourdieu y développe la notion d'habitus, définie comme du social incorporé, comme individué. Donc, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à Bourdieu, de multiples façons, la critique de la biographie s'est déployée. J'évoquerai simplement cette critique très profonde, finalement, de Flaubert dans Bouvard et Pécuchet. Vous savez que Bouvard et Pécuchet avaient entrepris d'écrire la vie du duc d'Angoulême, mais ayant réussi à se procurer deux portraits du duc d'Angoulême, Bouvard et Pécuchet ont constaté que le duc d'Angoulême ne se ressemblait pas. Et par conséquent, ils ont abandonné leur projet. Cette simple formule, me semble-t-il, résume à peu près l'ensemble des critiques que je viens de rappeler. Mais en 1986, quand paraît l'article de Pierre Bourdieu, un mouvement de relégitimation de la biographie était entamé depuis plusieurs années. Déjà, Jean-Paul Sartre, par l'idiot de la famille, avait tenté de dépasser les incohérences d'une vie, à propos de Flaubert précisément, en s'efforçant de retrouver un dessin existentiel de l'ordre de la brisure, de la plaie, une configuration névrotique capable de fonder une cohérence de l'homme. Ainsi, pour lui, la clé de l'œuvre de Flaubert ne serait pas un événement traumatisant, une expérience fondatrice, ni même une succession de chocs douloureusement éprouvés, mais une structure psychologique, la névrose, qui lui aurait permis de faire œuvre, qui se serait en quelque sorte objectivée dans l'œuvre. Et dans le même temps, les plus grands historiens dit alors des mentalités, ceux-là même qui avaient dénoncé la biographie, n'ont pu résister à la tentation de s'y livrer, tout en s'efforçant, il convient de le souligner, de rénover le genre. Tel est le cas de Lucien Febvre lui-même, biographe de Luther, de Georges Duby, passionné par Guillaume le Maréchal, et de Jacques Le Goff, auteur d'un Saint-Louis, nous y reviendrons. Depuis la fin des années 80, les historiens de la littérature et les spécialistes de sciences humaines ont multiplié les colloques et les numéros de revues consacrés à la biographie. Les colloques s'échelonnent entre celui de Cerisy, 1989, et celui de Nîmes, que je citais à l'instant, 1999. Les numéros de revues s'échelonnent aussi entre le numéro de la revue Le Débat, 1999, dans lequel Jacques Le Goff est intervenu, et le numéro, autre exemple, de la revue des sciences humaines de 1991. Tout cela met en quelque sorte la biographie en état de retour. C'est d'ailleurs le titre pratiquement du colloque de Nîmes de l'an dernier. Ce retour de la biographie s'accordait durant les années donc 90 à l'attrait exercé par tout ce qui relève de l'écriture de soi, de la révélation de l'être intime, situé au cœur de cette sphère privée qui faisait alors l'objet d'une série d'ouvrages remarqués publiés aux éditions du Seuil sous la direction de Philippe Ariès et de Georges Duby. En 1988, à la suite de leur tournant critique, les rédacteurs des Annales, fascinés par la microstoria italienne, publiaient l'article de Giovanni Levi consacré, je cite le titre, « aux usages de la biographie », se référant non plus au roman de Faulkner « Le bruit et la fureur » comme le fait Pierre Bourdieu, mais au « Tristram Shandy » de Stern, Lévy souligne à son tour l'extrême fragmentation d'une existence individuelle. Mais à ses yeux, je le cite, « aucun système normatif n'est de fait assez structuré pour éliminer toute possibilité de choix conscient, de manipulation ou d'interprétation individuelle des règles. Il existe ainsi, je cite toujours, pour chaque individu, un espace de liberté significatif qui trouve précisément son origine dans les incohérences des confins sociaux et qui donne naissance au changement social. Comment en effet imaginer un changement social si l'individu, aucun des individus qui composent la société ne dispose d'un espace de liberté ? Avant même que Jacques Le Goff ne déclare dans Le Débat en 1989 que la biographie constitue un indispensable complément à l'histoire des sociétés, l'historien Philippe Levillain, s'inspirant de Louis Dumont et considérant les phénomènes sociaux non comme des systèmes mais comme un agrégat de comportements, faisait remarquer, je le cite, que si les individus sont modelés par les sociétés, ils manifestent des préférences qui restent à expliquer. Ce qui correspond à peu près aux réflexions de Giovanni Levi. Mais Philippe Levillain ajoute quelque chose. Les découvertes de la génétique qui montrent que chaque individu est différent de tous les hommes du passé, du présent et du futur, impose, selon lui, un retour de l'attention à la singularité. Ces débats se déroulaient, ces longs débats, se déroulaient alors qu'au sein du public cultivé se révélait une soif intense de biographie. Et c'est là tout le paradoxe. D'un côté, inquiétude, interrogation sur la légitimité. De l'autre côté, désir, soif de biographie. Sans doute faut-il voir là, entre autres facteurs, l'influence diffuse et comme par imprégnation de la psychanalyse, dont par ailleurs le statut scientifique semblait commencer de s'affaiblir. Alors, ce désir insistant qu'il faut vraiment souligner, ce désir insistant a stimulé le raffinement des pratiques que je n'aurai pas, malheureusement, le temps de bien énumérer. La culpabilité, ou du moins le malaise, ressenti par le biographe conscient du manque de légitimité au fond de son travail, a induit, dès lors, une série de tactiques, je dirais, d'évitement. Première tactique d'évitement. Le recours à la collection de textes voire au collage de textes écrits par le personnage étudié. Le biographe se retranche dans des notes, dans des transitions, traductions, postface, cherche en quelque sorte à s'effacer tout en faisant une biographie. Autre tactique, construction en abîme d'un nouvel objet constitué de la revue des figures que le personnage étudié a successivement revêtues. On peut imaginez un Saint-Louis à travers les siècles, si vous voulez. Autre tactique, analyse du couple formé par le biographe et son personnage, ou bien analyse des stratégies de construction de la biographie. Tout cela contribue à dessiner la configuration d'un biographique qui inclut toutes les tactiques de vie ordonnées par le souci d'inscription dans l'histoire ou dans la mémoire, d'où la prégnance, et je voudrais avoir le temps de développer cela, d'où la prégnance dans notre société des conduites destinées à anticiper ou à verrouiller l'interprétation biographique. D'où aussi la prospérité nouvelle de ces officines qui proposent à chacun de rédiger l'histoire de sa vie comme on se fait tirer un portrait photographique. Voilà, je crois, à peu près la situation actuelle. J'en viens à ma deuxième interrogation. Emboîtons donc le pas à ceux qui, attirés par l'histoire de la singularité, croient en la légitimité de quête qui relève d'une biographie en état de retour. Mais il est un autre préalable. Celui qui est convaincu de la légitimité d'une recherche sur la manière dont l'histoire s'inscrit dans la subjectivité d'un individu d'une époque donnée, n'en doit pas moins s'interroger sur l'intensité chez celui-ci de la représentation de soi et sur le maintien de la cohérence de cette identité indépendamment de tout ce qui l'enserre et l'assujettit. Alors j'en viens à la période qui me concerne, 1815-1860, grosso modo. Il se trouve qu'au cours des deux premiers tiers du XIXe siècle, les signes, les traces d'un approfondissement et d'une extension sociale de cette prise de conscience de l'identité individuelle sont nombreux. Je me contenterai de les énumérer. On voit ainsi se diffuser l'habitude d'inscrire dans l'histoire les représentations de soi. Pour la première fois, nombre d'individus situent leur existence dans un cadre séculaire, ce qui n'était pas le cas, par exemple, au XVIIIe siècle. Rares deviennent désormais ceux qui ignorent la date de leur naissance. Et l'habitude se développe de souhaiter les anniversaires. Une individuation des systèmes d'appellation s'opère par l'élargissement de la gamme des prénoms, processus actuellement très évident par ailleurs. Mais revenons au XIXe siècle, le désir de personnaliser la tombe se propage. Les procédures de l'identification s'affinent et celles de l'enregistrement des êtres se multiplient et se précisent. État civil, recensement, rôles fiscaux, registres de conscription, listes électorales, ce qui contribue à ancrer l'identité individuelle. La diffusion du miroir, puis du portrait et de la photographie, en attendant l'enregistrement de la voix, qui est quelque chose de fondamental et qu'on ne souligne pas assez, me semble-t-il, accentue la conscience de soi, l'attention portée à la courbe de sa propre existence et le souci de laisser une trace. L'exacerbation du sentiment du moi, l'enrichissement des représentations du passé et surtout de l'avenir de soi se trouvent alors favorisés par l'indécision accrue des positions et par l'intensité de la mobilité sociale. Certes, tandis que le sentiment de la profondeur temporelle s'intensifie sous l'influence des découvertes concernant l'ancienneté de la planète et celle de l'homme, la préoccupation de l'avenir de soi dans un hypothétique au-delà s'estompe, en même temps que la croyance en la survie éternelle. Donc le souci du salut s'allège, tandis que s'opère un désenchantement du monde. Mais cette relative désinvolture se trouve compensée, pour ce qui nous occupe, par la subjectivisation de l'interrogation métaphysique et par la confrontation très accentuée de l'individu à l'incertitude. Durant cette période, alors que les rites de passage individuels se réaménagent et le plus souvent s'amplifient et se multiplient, exemple, le folklore qui entoure le conseil de révision, les collections d'objets souvenirs personnalisés qui viennent s'ajouter aux festivités de la première communion. Donc, dans le même temps, prolifèrent les procédures de récapitulation qui ont pour but d'endiguer la perte de soi. Jamais sans doute la confession, la confidence, la correspondance et toutes les formes de l'aveu n'avaient revêtu une telle extension sociale et une telle intensité. L'élaboration d'un emploi du temps, en attendant l'usage de l'agenda qui est postérieur, à peine postérieur, puisqu'on sait que Tocqueville avait un agenda. Donc, l'élaboration d'un emploi du temps, l'usage de l'agenda, la tenue d'un journal de cure qui enregistre les aléas de la santé, la rédaction quotidienne d'un journal intime, la multiplication des autobiographies de gens ordinaires, la distribution accrue de symboles de soi, mèches de cheveux, médaillons, images pieuses personnalisées, par exemple à l'occasion de la première communion, l'habitude grandissante d'inscrire ses initiales sur l'écorce des arbres, puis de se constituer, oui, cela a été étudié notamment par M. Polton, dans la forêt de Fontainebleau, puis de se constituer une collection, de remplir des albums de photographies. Tout cela atteste l'approfondissement, à ce moment, de la conscience de soi. Plus spécifique encore, le besoin de rupture, de scansion et de repère dans l'existence individuelle stimule la pratique du voyage, incite à la diversification des expériences. Durant le premier tiers du XIXe siècle, qui vit tout à la fois s'affermir la construction du sujet, se recomposer l'ancienne dualité du corps et de l'âme, se définir la psychiatrie, se précise à ce moment donc les contours de ce que l'on a appelé le mal du siècle, c'est-à-dire le sentiment d'une distance de soi à soi, le désir de réconciliation, d'assemblage harmonieux des éléments de l'être intime, Maine de Biran et Amiel surtout, qui ressassent les formes du dualisme tragique du corps et de l'âme, de la méditation et de l'action, de la solitude et de la sociabilité, de l'intelligence et de la sensibilité, illustre particulièrement bien ce besoin d'harmonie. L'expansion inouïe, véritablement inouïe, de la production et de la consommation de la fiction romanesque s'accorde alors à cette précision nouvelle des représentations de soi. Le roman de ce temps conduit le lecteur à accentuer la conscience de sa propre histoire de vie. Cet individualisme, alors si souvent dénoncé, le roman permet de nommer des situations que le lecteur a vécues, dénoncer des appartenances de soi jusqu'alors inaperçues, de s'inscrire, et là je cite une jeune historienne, Judith Lioncan, de s'inscrire dans des configurations douloureuses typiques, de mieux imaginer son propre avenir, d'éprouver de nouveaux désirs, de nouvelles attentes, de nouvelles souffrances aussi nées de la perception du décalage entre l'analyse rendue ainsi possible de sa condition et les représentations du statut désiré. Ne l'oublions pas, l'inscription de l'histoire dans les subjectivités individuelles est soumise au dessein des ambitions. Bref, comme l'atteste la correspondance adressée au romancier et étudiée par Judith Lioncan, la lecture du roman permet une qualification de soi à distance en référence au type romanesque. Elle facilite du même coup la perception de son identité. Alors s'intensifie la conscience d'une histoire de soi qui met en jeu les affects. Et dans cette perspective, ce qui constitue l'objet de mon propos pose à l'historien un problème crucial auquel j'ai consacré donc mon dernier livre, Le monde retrouvé de Louis-François Pinago. Quelle est l'extension sociale d'une éventuelle histoire du sujet lorsque l'on considère le XIXe siècle? En quelques mots, voici ma conclusion. Cette histoire éventuelle se limite à des êtres qui appartiennent à une élite capable de laisser des traces relevant de l'écriture de soi et à quelques individus qui, au hasard de leur existence, ont subi l'injonction de se dire parce qu'ils ont croisé la pénalité ou la charité. C'est ainsi que les historiens utilisent abondamment les archives de la justice et celles de la philanthropie, parce qu'elles jettent sur des hommes du peuple une brève lumière qui révèle tout au plus quelques instants de leur existence, quelques bribes de leurs émotions et de leurs sentiments. Victor Hugo s'était déjà posé le problème, et pour lui, pour accéder au statut de héros romanesque, celui qui était enfoui dans la caverne sociale ou l'infini d'en bas, je reprends ces expressions, devait avoir croisé soit la pénalité, soit la philanthropie. Si Jean Valjean n'avait pas volé de pain, il ne pouvait devenir héros romanesque aux yeux de Victor Hugo. Et il en serait de même des Thénardier en ce qui concerne la philanthropie. J'en arrive donc à mon troisième point. Après ces diverses interrogations préalables, venons-en, me direz-vous, certes bien tardivement, à ce qui forme précisément l'objet, quelle est la pesée de la conscience et de la mémoire de soi sur les représentations de l'histoire, plus particulièrement de celles qui se déroulent pendant le temps de vie de l'individu étudié. Quelle influence l'irruption d'une histoire extérieure au sujet, mais dans laquelle il se sent immergé, exerce-t-elle sur les représentations de soi? Bien entendu, cela conduit à nous demander quelle est pour l'individu la marge d'autonomie de l'interprétation. Ce qui renvoie à tous les acquis de la psychologie sociale, aux découvertes des analystes des représentations collectives et des représentations sociales qui ont œuvré pour s'en tenir à la France depuis la publication des travaux d'Émile Durkheim jusqu'à la parution de ceux de Serge Moscovici. Comment le souvenir de soi, aux configurations sans cesse mouvantes, perpétuellement soumises à des tensions, des contradictions, des formes de ressassement, des modes de reconstruction, s'articule-t-il au cadre social de la mémoire? Comment l'histoire de soi se soumet-elle ou résiste-t-elle à celle de la famille et de la communauté? Par exemple, en un temps, le premier XIXe siècle, obsédé par la construction de lignages. En un temps où, dans les campagnes, où vit la grande majorité de la population, se propage l'habitude d'inscrire la date de la fondation au fronton des maisons familiales. Les maçons migrants venus du Limousin travailler à Paris, et ce n'est qu'un exemple pour bien me faire comprendre, reçoivent différemment des ouvriers de la capitale les événements qui se déroulent dans la grande ville. Obsédé par le désir de maintenir le patrimoine, de payer les dettes de la famille ou la dot d'une sœur, ces maçons limousins vivent dans un autre temps, selon d'autres représentations de la durée. Ils se trouvent enserrés dans d'autres cadres de la mémoire que les travailleurs parisiens installés dans le présent et dans des perspectives d'avenir plus réduites. Plusieurs historiens, dont Jean-Clément Martin, spécialiste de la Vendée, et Philippe Joutard, des protestants des Cévennes, se sont consacrés à l'histoire de la construction, du cheminement souterrain, de la réactivation et du réaménagement du souvenir au sein de ghettos mémoriels. Ils ont montré combien ces processus complexes ont pesé sur la formation des identités. Pour qui étudie les paysans du 1er 19e siècle, et c'est là un autre exemple, l'historicité de la notion de patrimoine, concept mouvant s'il en est, l'attention portée par eux à l'église de la communauté, à son trésor et à ses cloches, l'enregistrement des usages locaux, la lente maturation de la notion de société traditionnelle, constituent autant de filtres, autant d'instances médiatrices qu'il faut prendre en compte si l'on veut bien percevoir l'intrusion de l'histoire dans les subjectivités. L'irruption de la Révolution dans la conscience des habitants des campagnes, la mémoire collective de sa réception, les cycles vindicatoires qu'elle a inaugurés ne sauraient se comprendre sans de telles références à l'identité sociale et territoriale, je dirais, et surtout territoriale. Mais là ne s'arrête pas la liste des préalables et des instances médiatrices qu'il faut établir dans la perspective encore de notre objet. Avant de tenter d'estimer l'inscription de l'histoire dans les subjectivités, il convient de se demander à propos de chaque individu concerné, que pouvait-il savoir de cette histoire? Qu'en savait-il véritablement? Et grâce à quels apprentissages? Se sentait-il concerné? Et par quoi, précisément? Les historiens, en effet, ont par trop tendance à décréter une diffusion sociale excessive du savoir historique et des intérêts qui sont les leurs. Quelle charpente temporelle sous-tendait le système de représentation du sujet étudié? La première moitié du XIXe siècle est un moment d'intense modification des représentations du temps, géologique, social, politique. Et c'est aussi un moment d'émergence d'une science de l'homme. Or, le savoir historique tel que nous l'entendons était malgré cela difficilement accessible à l'immense majorité de la population. Aussi ne faut-il pas s'étonner de l'imprécision des énoncés. Le temps des rois et des seigneurs, pour désigner ce qui est pour nous l'Ancien Régime. La Révolution perçue en bloc, sans les découpes plus précises qui nous sont familières, tout au plus fragmentées en fonction d'événements locaux qui ont marqué les mémoires. La représentation d'un Moyen-Âge par le plus grand nombre était alors problématique. La perception du temps se trouvaient différentes selon les individus. Je prendrai un exemple qui a donné lieu à un ouvrage collectif dans notre centre à l'Université de Paris 1, la barricade. La barricade, alors décisive sur l'histoire politique, impliquait certaines représentations des délais. La barricade impliquait notamment la croyance en la possibilité de changer le monde en un jour, de créer dans l'instant une rupture radicale. Or, cette croyance était sans doute socialement cantonnée. À cette époque, les habitants des campagnes et les militants parisiens ne vivaient pas dans le même temps politique. Ils ne concevaient pas de la même manière la longévité des régimes et ils n'éprouvaient pas le même désir de peser sur l'histoire nationale. Bien connaître ce qui associe l'interprétation du cours de l'histoire et la construction de l'identité individuelle implique donc la connaissance des modes d'information et d'apprentissage des représentations officielles, parfois multiples, du passé. Ce qui impose de s'attarder sur l'enseignement de l'histoire, y compris de l'histoire sainte, créatrice de profondeur temporelle dans l'esprit de l'élève, de cet enseignement de l'histoire tel qu'il a été dispensé et reçu, tout en sachant bien que l'histoire est construction perpétuelle, faite d'effacement, de résurgence, de réactivation, de réécriture. Par quel canot l'histoire investit-elle alors le sujet, cet habitant des campagnes dont je parlais? Par l'écoute du prône du curé, du discours du maire, ou la voix des cloches, ou par la voix des cloches, par la lecture des bulletins officiels, des affiches, des journaux, mais par la rumeur surtout. La rumeur qui est un des grands objets historiques de ce temps. Alors reste l'influence des expériences directement subies. L'historien doit en établir l'inventaire et se demander quelle action le sujet considéré a pu lui-même mener en ces occasions. Il doit savoir si celui-ci est alors intervenu pour agir sur le mécanisme même de ses assujettissements, autant de données essentielles dans la mesure où l'identité individuelle est le plus souvent construite et revendiquée par référence à l'expérience vécue dans le temps bref de l'événement qui donne du relief à la vie. Nous sommes donc là au cœur de notre propos et aussi dans un domaine particulièrement difficile. Le travail de reconstitution se trouve en effet gêné par l'historicité et donc la relativité de la notion même d'événement. Il faut avant tout se garder, et ça c'est essentiel, d'expliquer les réactions de l'individu étudié en fonction de l'événement tel qu'il a été construit a posteriori ou en fonction d'une réalité qui n'était pas celle qui a été effectivement vécue. L'historien doit aussi s'efforcer de distinguer le choc créé par l'événement, donc sa réception immédiate, et la manière dont l'individu a reçu les phases ultérieures de construction de ce même événement. Cela tend à déplacer l'enjeu de l'histoire, de la quête d'une réalité, vers l'analyse des effets de la reconstruction incessante de ce que l'on écrit avoir été cette réalité. Notre propos donc n'est pas de nous attarder ici sur les procédures de construction de l'événement, mais de nous arrêter sur le choc que celui-ci produit, choc qui transforme éventuellement en système des représentations jusqu'alors flottantes dans l'esprit de l'individu, leur permettant de s'organiser, de prendre sens et au besoin de déterminer l'engagement. Sans oublier qu'il faut tenir compte du désarroi engendré, ou du moins du désarroi éventuel, engendré par les intermittences du sens que revêt un même type d'événement. Je prendrai un exemple, ainsi, les barricades, considérées comme héroïques en 1830, selon les hommes qui prennent alors le pouvoir, sont dénoncées comme barbares en 1832 et en 1834, sont célébrées à nouveau en février 1848, puis stigmatisées en juin 1848. Alors, qui ne tient pas compte de cette intermittence ne peut comprendre les erreurs d'appréciation, le retournement des engagements, la sincérité dans l'incompréhension qui affecte cette histoire. Il nous faut d'autant plus traquer ces événements créateurs de cohérence au sein du système de représentation du sujet étudié que cela permet d'inscrire enfin, et pour ma part c'est là l'axe de ma curiosité, les sentiments et les émotions dans la démarche historienne, notamment le désir, la liesse, l'enthousiasme, la souffrance, le désespoir et l'horreur. Afin de mieux faire comprendre comment le processus d'intégration du savoir dans les croyances et les représentations a besoin du catalyseur qu'est l'émotionnel, j'évoquerai rapidement trois expériences, la guerre, la révolution et la construction de la citoyenneté, mais rassurez-vous, très rapidement. Je dirai peu de cette expérience essentielle, de cette brutale irruption de l'histoire englobante dans la vie des individus que constitue l'éventualité d'une guerre, son déclenchement, son déroulement, l'invasion et l'occupation. Les historiens déjà ont montré que le déracinement associé à la vie de caserne et plus encore à l'expédition outre-mer a exacerbé au XIXe siècle le sentiment du « moi », provoqué cette nostalgie alors considérée par les médecins militaires comme une véritable maladie. Mais la guerre, quant à elle, suscite des souffrances qui incitent à l'écriture de soi, immédiate ou rétrospective, qui modifie la vision du monde. Dans ce sens, elle est avec l'accident brutal et la maladie grave, l'événement par excellence dans le déroulement d'une vie. La bibliographie est immense, pour s'en tenir aux ouvrages récents, je songe à ceux de Jean-Jacques Becker, Stéphane Audouin-Rousseau, Georges Mossé, etc. La bibliographie est immense, consacrée à la construction d'une culture de guerre, à la brutalisation des esprits et aux nouvelles solidarités qu'elle engendre. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il est une autre expérience forte de l'inscription de l'histoire dans les subjectivités individuelles. En ce temps d'évolution rapide des sensibilités, la coexistence de la liesse et de l'horreur, inspirée par le massacre qui ensanglante l'espace public, provoque des réactions émotionnelles antithétiques liées à la différence de structure affective des sujets impliqués. Face à une tête décapitée, brandie à l'extrémité d'une pique, face à la vue du massacre, à son vacarme, à ses odeurs, le spectateur à l'âme sensible, qui prend ses distances par rapport à l'exaltation des tueurs et aux procédures de découpe et de dégradation des corps, éprouve malgré tout cette proximité ou cette éventualité de l'ignoble en soi qui installe le sentiment d'horreur. C'est dans la chair que la simple expérience de l'événement inscrit des représentations qui pèsent ultérieurement sur l'interprétation de celui-ci. Quand bien même la vivacité des sentiments immédiats provoqués par cette brutale inscription dans l'histoire se trouverait contredite par la mémoire officielle après que celle-ci a énoncé son appréciation. La barricade, j'y reviens, constitue, me semble-t-il, un laboratoire privilégié pour l'étude de ce qui relève de notre propos. Parce qu'à son contact s'opère l'obscure métamorphose du citoyen en insurgé. En ce lieu et ce moment tragique, des identités individuelles et collectives se forgent, se révèlent ou s'approfondissent. La barricade rompt avec une perception ordinaire de la durée. Elle ouvre ce temps fugace qui est expérimentation d'une façon d'exister. Du même coup, elle met en évidence ses subjectivités par l'ostentation d'une échelle des attitudes. Au sommet de celle-ci se situent les meneurs, ceux qui, d'emblée emportés par l'élan de leurs convictions, luttent dans l'enthousiasme. D'autres, craignant d'être taxés de lâches, participent pour sauvegarder leur honneur. Certains ne se donnent que partiellement au mouvement et se contentent d'accomplir des tâches subalternes qui les exposent moins directement au danger. À d'autres, les insurgés ne réclament qu'une participation symbolique. Pour certains, l'enrôlement dans les rangs des insurgés est en quelque sorte automatique, parce que la barricade se trouve intégrée au cours habituel des choses, parce qu'elle n'est parfois qu'un prolongement de leur maison. Et il est bon de le dire ici, dans le quartier des barricades, la rue des Gravilliers est toute proche de cet amphithéâtre, et c'est véritablement là, symboliquement, la rue des barricades par excellence. Donc vous voyez, on pourrait poursuivre l'énumération des attitudes dont la multiplicité met en évidence la singularité. L'étude des étapes et des modalités de la construction de la citoyenneté tend à focaliser l'attention des historiens de cette période, premier 19e siècle. Elle concerne notre propos, l'enrôlement dans la garde nationale en 1830, l'apprentissage de l'acte électoral grâce à la loi du 18 mars 1831 qui rend électifs les conseils municipaux, la participation à la liesse des fêtes de souveraineté, redevenue nationale cette même année et qui constitue des occasions privilégiées de familiarisation avec la politique. Tout cela modifie les sentiments d'appartenance, élargit l'horizon de soi, provoque dans la conscience l'articulation du local et du national. En mars 1848, l'instauration du suffrage universel et les apprentissages que son exercice implique, notamment celui des enjeux conceptuels supposés le fonder, couronnent le processus. Cette instauration suscite une lente individuation des convictions et des comportements politiques, lesquels, il est vrai, demeurent longtemps enserrés dans les cadres sociaux, ce que les historiens ne soulignent pas suffisamment. Mais à la fin du siècle, comme l'a montré Pierre Valin à propos des paysans rouges du Limousin, c'est le titre de son ouvrage, l'exercice du droit de vote est devenu comportement identitaire, affirmation de soi. Reste qu'en ce domaine, l'intrusion de l'histoire nationale dans les subjectivités individuelles s'effectue simultanément selon de multiples logiques, souvent déroutantes, et je le répète, simultanément à l'œuvre, en fonction de désirs, de formes d'anxiété, voire d'angoisse, qu'il faut mettre en évidence, comme j'ai tenté de le faire à propos du meurtre d'Alain de Monéis à Hautefaille, dans la Dordogne, en août 1870, dans un ouvrage intitulé « Le village des cannibales », puisque les logiques de cet événement n'ont rien à voir avec les logiques des débats qui se déroulent à l'échelon national. Donc, pour l'historien, cette simultanéité des logiques à l'œuvre, si vous voulez, pose évidemment un problème et augmente le nombre des difficultés. Compte tenu du temps imparti, mon exposé, plus que celle d'un bilan, revêt la forme d'une série d'interrogations, d'un programme à peine esquissé. Le processus de construction de l'individualité ou plus exactement le processus de construction de l'identité individuelle, est soumis à de nombreux déterminants. Et la pesée de l'histoire englobante ne constitue, répétons-le, que l'un d'entre eux. Il n'en est pas moins essentiel de se demander comment les représentations, le souvenir et l'oubli de soi sont travaillés par l'expérience du cours de l'histoire dans laquelle l'individu se trouve immergé et par la manière dont il l'apprécie. Sans doute est-ce là façon de surmonter le paradoxe initialement souligné. Notre société éprouve une soif intense de biographie que les historiens, y compris les détracteurs du genre, s'empressent de satisfaire. Cela, au moment où le statut scientifique et la légitimité de la biographie sont profondément mis en question. À mesure que s'approfondit et s'étend la conscience de soi et l'autonomie du sujet, s'avive le désir d'aller à la rencontre de frères d'inquiétude, tout en sachant que leur biographie constitue des projets impossibles compte tenu de l'aléatoire cohérence du moi. Je vous remercie de votre attention.
Si vous voulez poser des questions, levez la main. Des micros circulent dans la salle. Il y en a une ici.
Malheureusement, on ne voit pas. D'ici, oui. on ne voit pas les interlocuteurs.
Bonjour, c'est moi. Je vous remercie de cet exposé que j'ai trouvé passionnant. Vous avez conclu sur la notion d'aléatoire connaissance du moi, ou enfin, quelque chose de ce genre-là, et en disant que la construction de la biographie, de fait, interdisait de connaître pour le sujet étudié cette diversité, son essence même aléatoire. Est-ce que les nouveaux outils de la production littéraire et de la connaissance que sont l'hypertexte ne pourrait pas donner une meilleure connaissance à celui qui le lit par la possibilité de référence à l'intérieur du texte à des environnements culturels ou des notions différentes de celles du corps du texte et même à la possibilité du lecteur d'aller à ces références de manière aléatoire dans la poursuite de la connaissance de l'individu. Est-ce que ça ne donnerait pas une réponse à ces objections qui étaient faites au XIXe siècle à l'étude des biographies ?
Sans doute. Je suis malheureusement mal placé pour vous répondre, n'étant pas un spécialiste de cela, mais il est évident que c'est une voie d'accès, sans doute d'accès partiel à partir du texte, donc, mais évidemment qui ne vaut que pour ceux qui ont laissé des textes, c'est-à-dire l'infime minorité de la population qui a laissé des traces écrites. Bien entendu, ça va de soi. Mais il faut quand même le rappeler. Je pense, oui, que c'est une voie que je ne peux pas, évidemment, sans doute beaucoup moins bien que vous, expliciter, mais qui me fait aussi penser à toutes ces démarches d'histoire culturelle qui consistent à refaire, en quelque sorte, tout l'itinéraire de l'individu étudié, en allant avec lui à l'école, au collège, à l'église, à l'estimer comme spectateur de tel tableau, etc. Refaire avec lui tout l'itinéraire, dans un premier temps, avant de considérer les textes, et puis l'intertextualité aussi, et tout ce à quoi vous faites allusion. Oui, mais on n'en butera pas moins en ce qui concerne les individus du passé, sur le corpus de traces, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est tout le problème. En soi, le fait de laisser une trace est porteur d'effet de source. J'ai souvent souligné, par exemple, la surestimation des historiens du mal-être et de la douleur, parce que le mal-être, la souffrance, la douleur sont productrices de traces et de textes, alors que le bien-être, le bonheur et le plaisir sont beaucoup moins producteurs de textes. Et dans le domaine de la littérature, Jean-Marie Goulmeau a bien montré, à propos de la littérature licencieuse, de la littérature érotique, quelle était sa pauvreté, finalement, pour transcrire les expériences du plaisir. Donc, lorsque nous avons affaire à des individus disparus, nous savons déjà que l'obstacle, la crise, la souffrance, etc., sont productrices de textes. Et si nous n'établissons pas cette balance, si nous n'opérons pas une correction, nous sommes amenés à surestimer la douleur, la souffrance de la vie et à minimiser, voire à effacer ce qui font les plaisirs de la vie, le bonheur et le bien-être. Et en ce qui concerne la période que j'étudie, je crois que toute l'histoire, par exemple, des ouvriers de la monarchie censitaire a été construite sans trop se préoccuper de cela. C'est-à-dire qu'à lire les observateurs sociaux, à lire les statistiques et à faire des différents travaux concernant l'alimentation ou la durée de vie, on en vient à penser que ces gens ne pouvaient qu'avoir vécu dans un malheur effroyable et une souffrance permanente, alors que, bon... nous n'en savons rien, et qu'ils ont dû avoir leur espace de bien-être, de joie et de bonheur qui sont inaccessibles. Donc il y a toute une série de préalables. Je crois qu'il y a un peu d'imposture dans la manière... L'écriture de l'histoire est sans doute impossible. Enfin, ça, on en parlerait très, très longuement. Que signifie le projet de reconstituer la vie des êtres du passé et au filtre de notre propre cerveau? Mais les historiens manquent souvent de franchise en disant tout cela, enfin disant cela, c'est-à-dire qu'en commençant par ne pas présenter les effets de source des sources qu'ils utilisent. Ça, c'est, me semble-t-il... Mais j'ai le sentiment de ne pas avoir répondu à votre question, mais je ne peux que l'approuver, mais faute de compétences.
Avec l'exposé de demain, est-ce qu'il n'y a pas une manière de concilier l'histoire individuelle et l'histoire sociale qui s'appelle, en technique historique, la prosopographie?
Ah. Oui, alors là, je ne savais pas que demain il s'agissait de la prosopographie, mais dans le laboratoire, puisqu'on dit laboratoire maintenant auquel j'appartiens, on se livre beaucoup à l'histoire de la prosopographie. Et plusieurs des collègues dans cette université ont été les fondateurs, de Claude Nicollet jusqu'à Christophe Charles, de la prosopographie, et nous en menons. Oui. Effectivement, la prosopographie est une manière de concilier l'individuel et le collectif, mais elle ne permet pas de répondre exactement à la question qui m'était posée aujourd'hui. Malgré tout, elle permet de suivre dans la perspective de Bourdieu, qui est quand même un des grands inspirateurs de la prosopographie d'aujourd'hui, de considérer la position dans le champ, les trajectoires, etc., et donc d'expliquer certaines attitudes par cela même. Hein. Mais c'est de l'ordre de l'interprétation. Il est impossible, d'autre part, la prosopographie se résume à très peu de choses lorsque l'individu étudié n'a laissé aucune trace écrite. Elle n'est réalisable à ce moment-là qu'à l'aide des enregistrements ordonnés par l'administration. Et heureusement, pour l'historien, en France, les gouvernements du 19e et sans doute ceux du 20e ont été très portés sur l'enregistrement des êtres, des individus. Ils avaient besoin de connaître leurs contribuables, leurs conscrits, etc. Mais il m'est arrivé d'en parler au Japon, par exemple. Les historiens japonais sont complètement démunis parce que les gouvernements japonais du 19e siècle n'avaient pas le même type d'exigence. Et la prosopographie s'effrite, la connaissance des individus, de la plupart des individus, se délite. Donc la situation française est relativement privilégiée dans ce domaine.
Oui. Par rapport à l'identité ou à l'individualité, vous faites référence surtout à l'histoire et au temps, mais pas du tout au territoire et au rapport de l'individu au territoire et au fait que chaque individu crée et fabrique son propre territoire, construit son territoire, et ses repères sont les siens, et sont parfaitement individualisés, c'est-à-dire deux territoires, deux repères, ou deux ensembles de repères territoriaux ne correspondent pas du tout d'un individu à l'autre.
Non, je crois que vous avez tout à fait raison, vous soulignez quelque chose, mais je m'y suis pour ma part un peu intéressé. Le dernier séminaire de mardi dernier était consacré à ce sujet. Marie-Vic Ozouf, qui étudie beaucoup les modes de construction des territoires, de représentation des territoires dans la France du 19e siècle, nous a passionnés. Il est évident qu'on ne peut pas dissocier les formes de construction des identités. On ne peut pas étudier cela sans faire référence aux repères territoriaux. Je n'ai pas voulu en parler, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de déterminants et celui-là était l'un d'entre eux. Mais je me suis posé la question à propos de Louis-François Pinagot, l'individu que j'avais pris au hasard pour essayer de déterminer quel avait été son espace, en distinguant bien d'ailleurs espace et territoire, étant donné que territoire, c'est l'espace dans ses rapports avec l'autorité, la domination ou le pouvoir. Ça pourrait être une définition. Enfin, le territoire de l'individu, c'est quelque chose de fondamental. Il faut d'abord savoir quel était son espace de vie, quels ont été ses voyages éventuels, quels étaient ses repères, quels étaient son imaginaire géographique, et quels sont quel est son territoire de référence ou ses territoires de référence, parce que ça détermine ses appartenances. Mais il y a tout un pan de l'ethnologie à la française, je dirais, qui, dans les années 50 et 60, je pense à Maget, par exemple, se sont intéressés à ces références-là. L'individu, quel est son espace de connaissance et d'interconnaissance? Quel est son espace d'honneur et plus large, si vous voulez, ou de renommée? Quel est son espace, au contraire, d'indifférence? Et donc, les comportements individuels ne sont pas du tout, et les interactions ne sont pas du tout les mêmes selon que l'on circule à l'intérieur de l'espace d'interconnaissance, de l'espace de renommée ou dans la campagne. Hein. Et j'ai eu l'occasion, moi, pour ma part, d'étudier ça à propos des cloches, puisque les cloches sont façon, dans la France rurale du 19e siècle, d'opérer des découpes, de dessiner des territoires sonores qui sont des territoires de référence.
Oui, bonsoir, monsieur. C'est moi, là. Je tiens à vous remercier de votre exposé qui a été formidable et qui m'a inspiré une remarque avec deux questions. Alors d'abord, ma remarque, c'est que le biographe n'a pas du tout à se sentir coupable, culpabilisé par l'histoire ou par les machins plus ou moins subjectifs des gars qui écoutent, parce que d'une part, les faits sont objectifs. On peut pas renier la chose. Exemple, on peut pas renier que Mohamed, il est apparu 593 ans après le Christ. Donc, il est objectif. C'est objectif. Bon, la subjectivité, c'est laissé à tout un chacun. Ben, en plus, le biographe, à mon avis, à mon sens, subjectif, c'est qu'il est protégé par un cadre des institutions qui s'appelle les libertés publiques avec leurs applications individuelles, dont le droit à l'information, etc. Alors, mais ma question est double. Vous pensez pas que le cadre institutionnel des libertés publiques avec les applications individuelles, ça peut pas être le cadre de référence pour le biographe? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que celui-ci soit antinomique à la séparation, à mon avis, la bibliographie n'existe que dans le cadre de séparation de l'État et de l'Église.
Les deux?
Ouais, la séparation État-Église, à mon avis, implique qu'il y a possibilité de faire une biographie.
En ce qui concerne.
Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Une petite digression. Un cas qui n'a pas été très étudié, c'est le croisement, enfin, Jacques Le Goff. Parlait récemment du croisement de la géographie, puisque vous parlez d'Église et de l'État, et de la géographie et de la biographie. Et, un cas, pas de manipulation, mais d'intervention que je trouve absolument fascinant, le Saint-Curé d'Ars, c'est la petite commune d'Ars, près de Lyon, dans laquelle le curé est devenu saint, patron des curés de l'univers. L'évêque de Belley, l'évêché nous dépendait Ars, a décidé du vivant du curé d'Ars d'envoyer l'abbé Monin pour écrire du vivant du futur saint curé, en quelque sorte, sa biographie, ce qui est évidemment un cas très intéressant. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que l'abbé Monin s'est installé au presbytère d'Ars. Le curé d'Ars vieillissait, l'abbé Monin était un costaud, et peu à peu, l'abbé Monin a pris de l'ascendance sur le curé d'Ars et est intervenu dans la biographie même qu'il était amené à construire. Donc, je sais pas, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la biographie, je crois que le cas des relations du curé d'Ars et de l'abbé Monin, il y a deux superbes volumes de l'abbé Monin sur la vie du curé d'Ars. C'est un cas intéressant. Mais alors ça revient par ce biais, parce que vous me dites, c'est le problème des libertés publiques hein, et de la vie privée. Non, il se trouve que l'historien a toute liberté d'avoir ses propres curiosités, qu'elles soient d'ordre public ou privé. Et je ne crois pas que l'historien est à lui-même, je pense aux gens qui sont disparus, hein, l'historien. Je ne parle pas de l'histoire du temps présent, ça c'est une autre, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est une autre affaire. Mais pour ce qui est des gens disparus, je crois que l'historien a toute liberté d'enquêter sur l'histoire de la vie publique du personnage, donc dans la sphère publique et aussi dans la sphère privée. Parce que l'histoire, c'est répondre à une curiosité, comment étaient les hommes du passé qui nous ont précédés, etc. Donc, à mon avis, pas de limitation. Le sujet, c'est proposé. Louis-François Pinagot, je l'ai choisi au hasard. Et certains m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était à la limite de l'admissible, et je pense à une personne qui m'a dit, moi je n'ai pas envie que dans 200 ans ou dans 300 ans, un individu historien vienne me déterrer, en quelque sorte, et s'occuper de moi pendant plusieurs années. Voilà, on pourrait, mais je crois que cet aspect des choses n'a pas été encore, on n'a pas légiféré à ce propos, et pour l'instant, je pense qu'on a le droit d'enquêter vraiment dans tous les domaines. En ce qui concerne la séparation de l'État et de l'Église, vous voulez dire que la laïcisation et la laïcité auraient réorganisé, auraient remodelé en quelque sorte l'espace de la biographie. Ouais, je ne vois pas trop comment, en dehors du fait justement de l'affaissement du modèle des deux modèles ecclésiastiques, des trois, c'est le panégyrique, la géographie, hein, et évidemment l'inscription dans une histoire providentialiste ou dans une histoire qui implique la vie éternelle, etc., donc qui modifie effectivement la configuration de la biographie. Mais je crois que ce qui importe, c'est de savoir quel était le système de croyance du biographié. Si le curé d'Ars ne s'occupait pas de la vie terrestre, je veux dire, il appelait son corps mon cadavre, il se réjouissait de la mort des jeunes filles qui l'entouraient parce qu'elles allaient directement au ciel, etc. Il est évident qu'on est obligé de s'identifier et d'abord d'étudier le système de croyance de cet individu avant d'en faire la biographie. Sinon, on aboutirait au point d'exclamation qui est l'aveu de l'incompréhension en histoire. J'ai bien répondu à vos questions.
Je voudrais vous poser la question suivante. Vous n'avez pas fait allusion à une, je ne sais pas si on l'entend, à toute une tradition politique qui glorifie la subjectivité comme facteur d'engagement, qui est l'anarchisme. Je crois que là, il y a quand même quelque chose qui met en rapport la subjectivité et l'histoire, puisque pour les anarchistes, c'est vraiment ça qui est au premier plan. Donc, est-ce que vous pourriez faire quelques commentaires sur ce point ?
Je ferai amende honorable. Hein. Effectivement, là, je n'ai pas fait rentrer des anarchistes dans mon... Cela dit, j'avais constaté il y a très longtemps, en écrivant sur la prostitution, ce que vous dites, que les anarchistes étaient libertaires. Étaient les seuls à prendre en compte la subjectivité et à prendre en compte en tant que personne ce qu'on appelle aujourd'hui ces personnes prostituées. Je parle là de la seconde moitié du 19e siècle. Ce qui irait, cette proximité, cette attention portée au sujet de la femme prostituée, de la personne prostituée, irait dans la dans la ligne de ce que vous dites, mais je ne connais pas suffisamment la question de l'anarchie, simplement pour avoir suivi les travaux de Jean Métron, mais bon, c'est un des aspects effectivement qui mériterait peut-être une étude particulière, la conception des anarchistes de l'histoire du sujet, en quelque sorte. Je ne suis pas compétent.
Bonjour. L'historien est un homme et comme tout homme, il est soumis aux aléas de la vie. Son parcours existentiel, individuel ou collectif, ne peut échapper aux influences du passé comme celles du présent. Il ne peut donc se soustraire totalement à ses croyances philosophiques ou au système social ou politique qu'il a produit. Or, il se trouve que des historiens ne mettent pas suffisamment en garde contre la subjectivité de leur discours et par conséquent de l'histoire, qui, de par sa nature même, ne peut être une science exacte. En effet, l'histoire d'un pays ou du monde est multiple et même contradictoire. De ce fait, on ne peut pas parler de vérité historique, puisqu'elle n'existe pas. Cette vérité, entre guillemets, est souvent assénée par les vainqueurs et les plus forts. Qu'en pensez-vous ? Je vous en remercie.
Oh ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, vous, comme on dit, vous prêchez un convaincu, c'est-à-dire que je ne crois pas que je vous dise la possibilité, c'est ce que je disais. Je crois que la curiosité, l'histoire n'est pas une science, c'est une discipline. Et l'ensemble des historiens du monde, je crois, sont à peu près d'accord pour se soumettre à certains protocoles. Voilà. Ça ne va pas au-delà. Pour ma part, mais là c'est tout à fait personnel, je pense que l'histoire n'est que le fruit d'un désir et d'une curiosité qui tenaille depuis très longtemps les hommes, l'écriture, comment les êtres qui nous ont précédés ont-ils vécu, quelle était la configuration de leur pensable, de leur éprouvable, la configuration de leurs émotions, de leurs sentiments et de leurs passions. Donc il y a un horizon, on cherche à les comprendre, à aller vers eux, mais en même temps, l'histoire est un enjeu, vous avez tout à fait raison. Beaucoup pensent que l'histoire a une mission civique ou telle et telle mission, et du même coup, l'histoire peut être, cette curiosité, ces réponses se trouvent instrumentalisées dans le cadre de conflits, de débats, d'antagonismes, on voit ça partout, bien entendu. Mais ça pose quand même un problème qui divise, je crois, les historiens français actuellement, c'est sur la part de la mission civique de l'histoire. Ça, c'est un vrai problème. J'ai des collègues qui me sont très proches, qui ne pensent absolument pas comme moi, qui pensent qu'effectivement, l'histoire a une mission civique, qu'elle est là pour montrer, par exemple, ce qui concerne l'histoire du 19e, montrer la construction de la nation, montrer l'avènement de la République, montrer, que sais-je encore, le triomphe des droits de l'homme, l'instauration de la représentation, etc. Donc, c'est sa mission. Personnellement, donc, je serais moins ambitieux, simplement répondre à une curiosité. Mais bon, je conçois très bien qu'on soit autrement. Parce que le risque de l'histoire civique, malgré tout, c'est la téléologie. C'est de postuler la fin et c'est d'entraîner une certaine cécité à l'égard de ce qui n'entre pas dans le schéma.
Je vous remercie.